Chapitre 7e. Plusieurs jours s'étaient passés depuis que le voyageur dont nous avons parlé était tombé dans le piège que le capitaine Russell et son compagnon lui avaient tendu. Nous conduirons le lecteur dans une riante demeure située à l'extrémité du petit bourg de Lyonville, à 2 lieues du Havre. De cet endroit, très voisin de la côte, l'on domine au loin la mer. Une tranquillité profonde, un air vif et salubre, un pays à la fois riche et pittoresque, de frais ombrages, de grasses prairies, et la vue de l'océan rendait Lyonville et ses environs un véritable Éden pour les gens amoureux de paix, de rêverie et de contemplation solitaire. Ce qui contribuait surtout à donner à ce bourg, comme à tant d'autres villes, petites ou grandes, un aspect à la fois calme et singulier, c'était la complète absence de jeunes gens. Les dernières guerres de l'Empire avaient appelé sous les drapeaux tout ce qui était jeune et valide, et un sénatus consulte de ce mois de mars 1812 avait mis sur pied une partie de la réserve de la garde nationale, divisée en premier, deuxième et arrière-ban, comprenant tous les citoyens depuis 18 ans jusqu'à 60. L'on regardait donc, à cette époque, comme un phénomène non moins rare que le phénix ou le merle blanc, un jeune homme de 25 ans qui restait bourgeois, sans avoir l'avantageuse excuse d'être bossu, manchot ou boiteux. Le bourg de Lyonville possédait une de ses merveilles, un beau jeune homme de 24 ans ou plus. Hâtons-nous de dire qu'il semblait peu soucieux de se montrer et de jouir ainsi des avantages de son uniquité. Il vivait fort retiré, autant par goût que par devoir et par position. Ce jeune homme était l'un des habitants de la riante et paisible demeure dont nous avons parlé. Or donc, nous le répétons, plusieurs jours après que le voyageur avait été si rapidement enlevé par un faux postillon sur la route de Dieppe, une femme d'un âge mûr, une jeune fille et un jeune homme, le phénix en question, étaient rassemblés le soir dans un joli salon très confortablement meublé. Un bon feu brûlait dans la cheminée, car les soirées étaient encore fraîches. Une lampe à globe d'albâtre répandait sa douce clarté dans l'appartement, tandis que la bouilloire à thé, placée devant le feu, faisait entendre son petit murmure. Un observateur aurait peut-être remarqué cette singularité que parmi les objets d'agrément et de luxe qui garnissaient ce salon, la plupart étaient d'origine anglaise, malgré l'impitoyable prohibition dont le système continental frappait alors les produits de l'Angleterre. En un mot, dans cette demeure, depuis les vases de terre de Godwood, fond vert pâle ou bleu clair, à figure blanche en relief, jusqu'aux porcelaines les plus transparentes et les plus finement peintes, presque tout provenait de l'industrie anglaise. Il en était de même du service à thé en argenterie fort riche. Seulement les pièces étaient généralement dépareillées. Ainsi, tandis qu'une couronne ducale surmontait le couvercle de l'urne massive où l'on transvase l'eau bouillante pour faire le thé, un simple cimier de chevalier décorait la théière et un chiffre bourgeois ornait le sucrier. Malgré ces dissemblances, l'argenterie n'en était pas moins brillante. C'était plaisir que de voir ses facettes brunies miroiter au reflet du feu et de la clarté de la lampe. La femme de moyen âge avait une figure intelligente, ouverte et gaie. Elle comptait 42 ans bien sonnés, mais ses cheveux étaient encore fort noirs, son teint frais. Ses dents blanches, son œil vif et son joyeux sourire respiraient la bonne humeur. Sa taille, bien dessinée malgré un léger excès d'embonpoint, gagnait en majesté ce qu'elle perdait en élégance. Somme toute, cette digne matrone ne manquait jamais d'attirer les regards lorsque, coiffée d'un frais bonnet de dentelle d'Angleterre, bien serrée dans une robe de fin tissu anglais, ayant sur ses épaules un beau châle d'une manufacture anglaise, elle accompagnait à l'église du bourg une jeune fille dont elle était plutôt l'amie que la gouvernante. Cette jeune fille venait d'avoir 17 ans. Elle était grande, très frêle, très mince, et douée ou affectée d'une organisation nerveuse essentiellement impressionnable. Cette sensibilité souvent excessive, que la moindre émotion exaltait parfois douloureusement, avait eu sa cause première dans un sinistre événement arrivé depuis de longues années. L'un de ses principaux résultats avait été de rendre cette jeune fille horriblement peureuse. Un bruit soudain, une brusque surprise, un récit effrayant, la jetait parfois dans des transes, dans des effrois involontaires qu'elle se reprochait bientôt, mais qu'elle ne pouvait vaincre. Il était difficile, d'ailleurs, de rencontrer une physionomie plus aimable, plus intéressante que la sienne, et lorsque, cédant parfois à l'un de ces sentiments de crainte insurmontable, souvent causés par l'incident le plus puéril, tressaillant tout à coup, elle redressait sa jolie tête sur son cou délié et écoutait, toute palpitante. Sa gracieuse attitude, son doux et grand œil bleu, inquiet et alarmé, rappelait à la pensée une pauvre gazelle effarouchée. Grâce à cette nature si nerveuse, si étrangement sensitive, la jeune fille n'avait pas le frais coloré d'une vaillante santé. Ordinairement d'une pâleur extrême, l'émotion la plus fugitive nuançait aussitôt son teint d'un rose vif. Alors, son charmant visage, encadré dans les tresses soyeuses d'une magnifique chevelure châtain clair, semblait rayonner de l'éclat fleuri de la jeunesse. Certes, avec une carnation plus fraîchement colorée, avec des contours plus pleins, plus arrondis, elle eût gagné en attrait matériel, mais elle aurait perdu peut-être le charme de sa physionomie touchante, presque idéale, lorsque, vêtue de blanc ainsi qu'elle aimait à se vêtir, un léger voile entourant à demi ses traits languissants, la jeune fille se promenait lentement sur la grève ou dans les allées ombreuses du jardin de la maison. Le dernier des trois personnages réunis dans le salon était ce phénix de l'époque dont nous avons parlé, c'est-à-dire un jeune et joli garçon non appelé sous les drapeaux. Ce phénix avait 25 ans, une taille moyenne, mince, bien prise, des traits gracieux et réguliers. Mais l'on remarquait sur sa figure pensive une sorte d'embarras mélancolique, résultant d'une grave infirmité qui l'avait exempté du service militaire. En un mot, la vue de ce jeune homme était très basse, et si basse, qu'il pouvait à peine se conduire. De plus, par une bizarrerie organique, il ne pouvait retirer aucun secours des lunettes. Quoique ses grands yeux bruns fussent transparents et bien ouverts, son regard avait quelque chose de voilé, d'indécis, et il prenait parfois une expression navrante lorsque le pauvre myope, après s'être vivement tourné vers vous comme pour vous fixer, se rappelait, hélas, avec une tristesse amère, qu'à trois pas de lui toute forme devenait confuse et presque insaisissable. Cependant, il faut l'avouer, si les conséquences de l'infirmité de ce jeune homme excitaient parfois la compassion, parfois aussi elles causaient des rires inoffensifs, car le digne garçon était sujet à des méprises fort amusantes. Est-il besoin de dire que la femme d'un âge mûr se montrait plus particulièrement frappée de ce qu'il y avait de plaisant dans les erreurs du myope, son neveu, tandis que la jeune fille, au contraire, se montrait touchée de ce qu'il y avait d'intéressant dans la position du quasi-aveugle, position souvent pénible? Enfin, la jeune fille souffrant beaucoup de cette impressionnabilité presque maladive, de cette poltronnerie nerveuse qu'elle ne pouvait vaincre, elle et le myope, ces deux timides créatures, ne devaient-elles pas profondément sympathiser ensemble et trouver un lien secret dans leur faiblesse même, qui tour à tour appelait le sourire aux lèvres ou les larmes aux yeux? Ces trois personnages ainsi posés, nous prendrons part à leur entretien. La jeune fille brodait. Sa gouvernante s'occupait d'un tricot de laine ponceau qui semblait destiné à devenir une longue et chaude cravate pour l'hiver, tandis que le jeune homme, tenant tout auprès de ses yeux le dernier numéro du journal de l'Empire, apporté le matin même par la poste, faisait à haute voix la lecture des dernières nouvelles et apprenait à ses lectrices le départ de M. le maréchal duc de Reggio pour l'armée qu'il devait commander. La gouvernante, ayant entendu, du côté de la cheminée, quelques légers bouillonnements accompagnés de plusieurs petits jets de vapeur, jugea que l'eau destinée à l'infusion du thé était suffisamment bouillante et dit à son neveu « Onésime, nous reprendrons tout à l'heure notre lecture. L'eau bout, mets-la dans l'urne et surtout pas de maladresse. » Onésime déposa le journal sur la table, se leva et se dirigea vers la cheminée avec un certain serrement de cœur, car le malheureux myope allait s'aventurer dans une entreprise difficile, périlleuse et remplie d'écueils, dont il soupçonnait vaguement l'existence. Ainsi, il lui fallait d'abord se garer d'un fauteuil placé à sa gauche, puis d'un guéridon placé à sa droite. Ce charybde et ce cil à éviter, il devait enjamber un petit tabouret placé tout auprès de la cheminée et saisir enfin la bouilloire fumante. La jeune fille, nous l'avons dit, ne s'égayait presque jamais des mésaventures d'Onésime. Cependant, elles étaient quelquefois d'un comique si inattendu qu'elle cédait parfois malgré elle à une invincible envie de rire. Or, ce que le pauvre garçon redoutait le plus au monde, c'était de donner à rire à sa compagne de solitude, et quoiqu'il fût le premier à se moquer de ses maladresses, au fond du cœur, il en souffrait. On comprend donc avec quelle attentive prudence, avec quelle circonspection inquiète, Onésime entreprit d'aller à la recherche de la bouilloire. Une de ses mains étendue en avant l'avertit de la présence du fauteuil de gauche. Il tourna cet obstacle. Il allait cependant se heurter au guéridon. Lorsque son autre main lui signala ce second écueil. Déjà, il se réjouissait d'atteindre la cheminée sans accident lorsque la rencontre imprévue du tabouret le fit trébucher. Voulant reprendre son équilibre, il fit deux pas en arrière et donna un choc au guéridon qui fut renversé avec grand fracas. Depuis quelques moments, la jeune fille, interrompant sa broderie, était absorbée dans une rêverie profonde. Elle en fut brusquement tirée par le bruit de la chute du meuble. Aussitôt, sans connaître la cause de ce fracas et incapable de vaincre sa peur, elle jeta un cri d'effroi, pâlit et se renversa dans son fauteuil, saisie d'un tremblement nerveux. « Mon enfant, rassurez-vous !» s'écria la gouvernante. « C'est encore une maladresse d'Onésime. Voilà tout. Calmez-vous. » La jeune fille, apprenant ainsi la cause du bruit dont elle venait de s'effrayer, regretta beaucoup d'avoir involontairement augmenté la confusion du pauvre myope et dit, en tâchant de vaincre le tremblement dont elle était saisie, « Pardon, ma bonne amie, je suis folle, mais tu sais, je ne peux surmonter ces peurs absurdes. Pauvre enfant, est-ce que c'est votre faute, mon Dieu? Ne souffrez-vous pas la première de ces frayeurs involontaires? Est-il besoin, je vous le demande, de vous en excuser? Et sans la maladresse de mon neveu? Tais-toi, c'est à moi de rougir devant Monsieur Onésime, dit la jeune fille. À mon âge, être encore sujette à de pareilles faiblesses, c'est honteux. Le pauvre garçon, désolé de sa mésaventure, balbutia quelques mots d'excuse, puis, tout en remettant le guéridon sur pied, il écarta le tabouret et saisit enfin la malencontreuse bouilloire qu'il apporta pendant que Madame Robert faisait respirer des sels à la jeune fille. Bientôt, Onésime se montra héroïque. Sa tante, le voyant se disposer à verser l'eau dans l'urne, lui dit, tout en s'occupant de la jeune fille, « Pour l'amour de Dieu, ne touche plus à cette bouilloire. Tu es trop maladroit. Tu feras encore quelques sottises. » Onésime, profondément humilié et jaloux de se réhabiliter, ne répondit rien, profita de l'inattention de sa tante afin d'agir contrairement à ses ordres, enleva le couvercle de l'urne et sa main gauche appuyée sur le rebord de la table. Il haussa sa main droite, dont il tenait la bouilloire, afin de transvaser le liquide brûlant. Malheureusement, la mauvaise vue d'Onésime le trompa, et il commença de verser le contenu de la bouilloire à côté de l'orifice de l'urne. Une douleur atroce l'avertit de sa nouvelle maladresse. Sa main gauche venait d'être inondée d'eau bouillante et brûlée à vif. Onésime, nous l'avons dit, se montra d'un stoïcisme héroïque. Sauf un brusque tressaillement causé par cette soudaine et horrible souffrance, il ne poussa pas une plainte, et mieux avisé par la douloureuse conséquence de son erreur, il parvint même à remplir l'urne, puis il dit doucement « Ma tante, l'urne est remplie, puis-je préparer le thé? Mademoiselle en prendra peut-être une tasse ?»« Comment, l'urne est remplie ?» dit vivement la gouvernante en se retournant. « C'est ma foi vrai. Et son nouveau malheur ?»« Ah, pour cette fois, il faudra faire une croix à la cheminée, mon garçon. » »« En vérité, ma bonne amie, dit la jeune fille avec un accent d'affectueux reproche, tu es aussi injuste qu'impitoyable. » Et s'adressant au jeune homme, elle ajouta « Ne l'écoutez pas, monsieur Onésime, cette méchante tante ne songe qu'à vous tourmenter. Mais moi, je vous défendrai. En attendant, veuillez, je vous prie, me donner une tasse de thé. »« Miséricorde !» s'écria la gouvernante en riant. « Le malheureux va mettre en pièces ce charmant service rose et blanc que monsieur a rapporté à son dernier voyage. » Mais Onésime, trompant les fâcheux pronostics de sa tante, apporta bravement et sans encombre la tasse de thé à la jeune fille qui lui dit « Merci de votre obligeance, monsieur Onésime. » Et elle accompagnait ces mots du plus aimable sourire lorsqu'elle rencontra les grands yeux mélancoliques et voilés du pauvre myope qui se tournait machinalement vers elle et semblait la chercher. Ce regard vague et triste, presque implorant, émut la jeune fille. « Hélas, pensait-elle, il ne s'est pas aperçu que je lui souriais. » Son pauvre et doux regard a toujours l'air de vous demander grâce de son infirmité. » Ses pensées l'attristèrent si visiblement que sa gouvernante lui dit « Qu'avez-vous donc, mon enfant? Vous semblez chagrine. » Onésime, à ces mots de sa tante, tourna aussitôt les yeux avec inquiétude du côté de sa compagne, comme pour interroger l'expression de ses traits. Mais songeant bientôt qu'il lui était impossible de rien distinguer, il baissa tristement la tête et cacha sous son mouchoir sa main brûlante qui lui faisait éprouver des douleurs atroces. La jeune fille, assez embarrassée de l'observation de sa gouvernante, lui répondit « Tu te trompes, ma bonne amie, je ne suis pas chagrine. Seulement tout à l'heure, tu as parlé de mon père, et tu m'as rappelé ce que je n'oublie guère, qu'il devrait être auprès de nous depuis plusieurs jours et qu'il ne vient pas. Voyons, n'allez pas maintenant vous tourmenter pour cela, mon enfant. Est-ce la première fois que monsieur n'arrive pas le jour qu'il nous avait fixé ? Ce retard, je l'espère, n'a aucune conséquence fâcheuse, cependant il m'inquiète. Mais mon Dieu, mademoiselle, est-ce que monsieur ne peut pas être retenu malgré lui pour les affaires de son commerce ? Croyez-vous que lorsqu'on fait en grand la commission de rouennerie et autres étoffes, on puisse annoncer son retour chez soi à heure fixe ? Est-ce que souvent une nouvelle affaire ne s'engage pas juste au moment où l'on allait partir, et alors on est forcé de rester ? Ma tante a raison, mademoiselle, dit Onésime. Les opérations du commerce sont si imprévues. Il est vrai, monsieur Onésime. Sans compter, mon enfant, reprit la gouvernante, sans compter que monsieur ne veut jamais revenir ici sans vous rapporter toutes sortes de jolies choses, toujours de fabrique anglaise, par exemple, et pourquoi ? Parce que c'est plus rare et plus recherché, comme le fruit défendu. Oh oui, ce bon et tendre père me comble de toute manière, et chaque fois qu'il me quitte, il pleure autant que moi. Mais aussi, monsieur sait se faire une raison, lui. Et s'il voyage, mon enfant, c'est dans votre intérêt. Je veux que ma fillette soit riche, me disait-il il y a 2 mois avant son départ. Encore une ou 2 bonnes tournées, sa dot sera faite, et alors, ma foi, au diable le négoce des rouenneries, je ne quitterai plus cette chère enfant. Fasse le ciel que ce moment arrive bientôt, reprit la jeune fille en soupirant. Je ne serai tranquille, heureuse, que lorsque ce bon et tendre père sera là toujours auprès de moi. On se forge tant de craintes pendant l'absence. Des craintes ? Mais maudite petite poltronne, reprit affectueusement la gouvernante, des craintes, à propos de quoi ? Quel risque peut courir un brave négociant comme monsieur qui ne s'occupe que de ses petites affaires et qui voyage dans une bonne voiture afin de pouvoir s'arrêter à sa guise, de ville en ville, pour placer ses échantillons ? Encore une fois, que risque-t-il ? Il ne voyage que 2 jours, sans compter qu'il emmène toujours son commis. Et vous le savez, il se mettrait au feu pour monsieur, ce vieux serviteur, quoiqu'il soit le plus mal prédestiné des mortels. Pauvre homme, c'est vrai, car il est victime d'un accident presque à chaque voyage de mon père. Et pourquoi cela ? Parce que c'est un vieux tatillon, un vieux touche-à-tout, et qui de plus est fort maladroit. Je ne dis pas cela pour toi, mon beau neveu, mais cela n'empêche pas que le bonhomme serait une vraie garde malade pour monsieur, s'il était incommodé en route. « Je vous demande donc un peu ce que vous avez à craindre, mon enfant. »« Rien, tu as raison. »« Songez donc à ce que ça serait si vous aviez, comme tant d'autres, un père militaire à l'armée. »« Ah, ma pauvre amie, que dis-tu ? Faible et impressionnable comme je le suis, est-ce que je pourrais résister aux alarmes continuelles dont je serais assailli ? Moi, penser à chaque instant que mon père est peut-être exposé au plus grand danger, à la mort ? Tiens, tu le vois, cette seule idée ? Oui, pauvre enfant. » Cette seule idée vous rend toute pâle, toute tremblante. Cela ne m'étonne pas. Je sais votre tendresse pour votre digne père, mais chassons ces vilaines idées. Et pour vous distraire, Onésime va continuer la lecture du journal. Voulez-vous ? Certainement, si monsieur Onésime n'est pas fatigué. Non, mademoiselle, reprit le jeune homme, qui faisait des efforts surhumains pour surmonter ses souffrances de plus en plus aiguës. Approchant le plus possible le journal de ses yeux, il se disposait à reprendre sa lecture lorsqu'il dit « Je crois que voici un récit qui intéressera mademoiselle. »« De quoi s'agit-il, monsieur Onésime ?»« Mademoiselle, c'est encore une prouesse de ce fameux corsaire de Dieppe, dont on parle tant et que l'on a surnommé le fléau des Anglais. »« Mon enfant, je crains que ce ne soit trop émouvant pour vous, » dit la gouvernante. « Vous êtes si nerveuse aujourd'hui. »« Monsieur Onésime, » dit la jeune fille en souriant, « est-ce que ça a l'air bien terrible, bien effrayant, cette histoire ?»« Je ne le crois pas, mademoiselle, car il s'agit d'une évasion. Voici du moins le titre du récit. Évasion de l'intrépide capitaine corsaire l'endurci qui, victime d'une infernale trahison, avait été enlevé du territoire français par des émissaires anglais. Cela doit être curieux, en effet. Veuillez toujours lire, monsieur Onésime. Si cela me semble trop effrayant, je vous prierai d'interrompre votre lecture. » « Moi, je suis tout oreille, » ajouta la gouvernante d'un air affriandé, car j'adore les histoires de corsaires. « Oh, toi, tu es brave !» dit la jeune fille en souriant. « Tu es vaillante !»«
Comme un lion !» Et je me régale des récits de bataille que je trouve dans le journal. Souvent, ça me donne la chair de poule, et pourtant, je n'y renonce pas.
« Oh, je ne suis pas comme vous, chère peureuse. Il me semble que le plus bel état est l'état militaire.
Voyons, Onésime, lis-nous bien cela.
Et si tu trouves quelque chose de trop effrayant pour cette chère enfant, arrête ou passe. »«
Soyez tranquille, ma tante, » dit le jeune homme.
Et il commence ainsi qu'il suit le récit de l'évasion du capitaine l'Endurci.